La question que nous vous posions hier pour aujourd'hui était la suivante. Pensez-vous qu'Israël devrait s'en prendre, oui ou non, à l'ayatollah Khamenei, le guide suprême de l'Iran? Alors Lise, qu'en ont pensé nos auditeurs? Ont-ils tranché la question ou sont-ils partagés?
Non, ils ont tranché, Didier, ils ont tranché. 73% de oui sur Facebook et encore plus sur Insta. 78% de oui sur Insta. Et même sur Twitter. Comme d'habitude, sur Twitter, c'est l'inverse. 67% de non. Je crois que je ne comprendrai jamais pourquoi nos auditeurs sur Twitter, Facebook et Instagram sont toujours inversés. On va demander son avis à notre invité, à Raphaël Jérusalmi. Bonjour.
Bonjour.
Ancien officier des renseignements militaires de Tsahal. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, Raphaël Jérusalmi, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'Israël devrait aujourd'hui s'en prendre à l'ayatollah Khamenei?
Bien sûr, il aurait déjà dû s'en prendre même par le passé. Je pense que ça pourrait n'être qu'une question de temps si l'Iran continue de menacer Israël. En tous les cas, l'ayatollah Khamenei a rejoint dans les sous-sols ses prédécesseurs et donc il est quelque part caché dans un bunker et il vient de jeter à la poubelle son téléphone.
D'accord. Alors, bon, c'est vrai qu'on peut en plaisanter à Raphaël Jérusalmi, mais on sait bien que c'est l'Iran qui téléguide tous ses proxys au Moyen-Orient et qui envoie ses attaques vers Israël, que ça soit celle du Hezbollah, également celle des Houthis du Yémen, également des milices en Irak et en Syrie. Est-ce qu'aujourd'hui, on comprend bien que la capacité du Hezbollah, elle a été très entamée par la mort de Nasrallah et toutes les dernières attaques israéliennes, mais est-ce que la capacité globale de l'Iran, Raphaël, elle a perdu beaucoup?
Absolument, parce que toute la stratégie iranienne en cas d'un conflit ouvert avec Israël était de s'appuyer sur deux béquilles, le Hezbollah au nord et le Hamas au sud, qui auraient ouvert simultanément donc deux fronts supplémentaires si jamais les Iraniens voulaient attaquer Israël de leur territoire avec des missiles. Eh bien, cette stratégie est tombée à l'eau, c'est râpé pour Téhéran. Il n'y a plus cette possibilité de diversion et de frappe préliminaire du Hezbollah et du Hamas. Et donc, l'Iran se retrouve avec des proxys qui sont moins difficiles, à neutraliser. Les milices chiites pro-iraniennes, c'est pas tout à fait le niveau d'entraînement et d'équipement du Hezbollah. Ça n'en ferait qu'une bouchée. Les Américains donneraient peut-être un petit coup de main, car ces milices ont souvent attaqué les intérêts américains. Et les Houthis du Yémen ont commencé à tâter un petit peu de ce qui les attendait s'ils continuaient à provoquer Israël. Donc je pense que dans l'ensemble, l'Iran serait malvenu d'envisager une attaque à conflit avec les Israéliens en espérant qu'ils se contenteront d'une salve d'honneur. Si par malheur ils décident malgré tout d'étendre le conflit, je pense qu'il y a des très 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 mauvaises surprises qui les attendent et je pense qu'ils s'en doutent aussi.
Alors ce matin, l'ancien président Ahmadinejad révélait quelque chose que visiblement on sait dans la communauté de renseignement depuis très longtemps, que le chef du contre-terrorisme, entre guillemets, anti-Mossad, était lui-même un espion du Mossad. Ça veut dire que vraiment Israël est infiltré au cœur de Téhéran, Raphaël Jérusalmi.
Oui, je ne prendrai pas pour argent comptant ce que raconte M. Ahmadinejad qui a l'art de raconter beaucoup de choses et qui ne sont pas en rapport avec la réalité. Mais oui, bien sûr, même les gardiens de la Révolution sont infiltrés par le Mossad, pas nécessairement par des agents israéliens. Il y a, et on le sait, et s'en cache même pas tellement d'ailleurs, des scissions internes au sein de l'armée des gardiens de la Révolution iranien. Des désaccords, des inimitiés internes qui facilitent évidemment le recrutement de personnes pouvant donner des renseignements. Ces personnes travaillent avec les Israéliens, mais ne savent pas toujours avec qui ils travaillent. C'est pas nécessairement le recruteur ne se présente pas nécessairement comme israélien. Il peut se présenter sous une autre identité. De même pour l'administration iranienne à Téhéran. Elle est infiltrée. Il y a pas mal de gens qui ont des comptes à régler avec les ayatollahs et qui se font un plaisir de se faire passer pour de fidèles et loyaux serviteurs du régime des mollahs, mais qui en fait sont des espions au compte des Israéliens ou d'ailleurs des Américains.
Alors, ce matin, l'opération terrestre de Tsahal a débuté au Liban, Rafael Jerusalmi. On s'y attendait, on l'attendait depuis plusieurs jours. Tsahal assure qu'il est très bien préparé à cette opération terrestre au Liban.
Oui, il y a eu quand même au moins 3 ans d'entraînement intensif sur tous les scénarios possibles et imaginables. Donc, on est vraiment à l'inverse total de ce qui s'est passé avec Gaza le 7 octobre. Là, il y a une préparation intensive, tant au niveau du haut commandement, qui a préparé des différents plans d'action, qui étaient déjà tout prêts, il n'y avait plus qu'à les autoriser, soit au niveau même des réservistes et des troupes sur le terrain, qui se sont entraînés avec beaucoup de manœuvres répétées sur cette possible incursion au sein du territoire libanais, que je redoute néanmoins, même si on est bien préparé, même si on y va en force, c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Le Hezbollah est mieux entraîné, mieux équipé, mieux retranché que n'était le Hamas à Gaza. Et donc, pour moi, le seul problème, c'est la mise en danger de la vie de nos soldats et de nos soldates. C'est ce que je redoute le plus. Espérons, je pense, à mon avis, mais c'est un avis personnel qui n'est pas autorisé militairement, je pense que nous sommes rentrés un peu trop tôt. Il fallait continuer à bombarder beaucoup plus par la voie des airs et de l'artillerie avant d'envoyer les troupes. Mais je ne suis pas un grand général de Tsahal, je pense qu'ils savent ça mieux que moi. C'est juste parce que j'ai peur pour nos soldats et nos soldates.
On entend, Rafael Jerusalmi, et c'est tout à votre honneur. Et dites-moi, est-ce que on parlait de la comparaison avec ce qui s'est passé à Gaza? On voit que Israël est en train de terminer ça au bout d'un an de bataille acharnée. Est-ce que ça veut dire que on se dirige vers autant de temps que cela pour le front nord avec le Hezbollah?
Alors, d'une part, l'objectif n'est pas le même. À Gaza, c'est l'extermination de la branche militaire du Hamas. Les Israéliens ne pensent pas avoir comme objectif la destruction totale de la branche militaire du Hezbollah. C'est un trop gros boulot, effectivement. C'est pas seulement l'objectif qui est différent. D'ailleurs, je rappelle que l'objectif est minime au départ des Israéliens. C'est de repousser les forces du Hezbollah de quelques kilomètres au nord de la frontière avec Israël pour que les Israéliens évacués puissent rentrer chez eux. C'est tout ça, c'est parce que le Hezbollah se refuse à ce repli. Et puis, le contexte est complètement différent. À Gaza, il y a une dictature du Hamas. Une fois qu'elle est enlevée, un vide est créé et là, tout est possible. Là-bas, nous, au nord, avec le Hezbollah, nous sommes face à un État souverain. Le Liban, même s'il est en crise, ça demeure une nation souveraine avec un peuple libanais, une population libanaise qui a son mot à dire là-dessus. Et donc, il est évident que l'objectif est complètement différent et qu'on ne risque pas de s'embourber pour deux raisons. La première, c'est que l'opération est limitée dans le temps et l'espace. Il y a un but de nettoyage le long de la frontière. Je rappelle, c'est quand même une frontière qui est longue de 75 kilomètres, ça fait du boulot. Mais aussi, le second objectif qui pourrait arriver, c'est que le Liban, avec l'aide de la communauté internationale, reprenne son destin en main, reprenne le contrôle du sud Liban, et donc nous aide, si vous voulez, ou que nous aidions mutuellement à mettre hors jeu le Hezbollah et qu'il y ait une négociation de cessez-le-feu direct entre Beyrouth et Jérusalem.
Ma dernière question, Rafael Jerusalmi, Naïm Kassem est le premier qui a pris la parole depuis l'élimination de Hassan Nasrallah. Est-ce qu'un remplaçant à Hassan Nasrallah va voir le jour rapidement et est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que finalement les commandants les plus importants ayant été éliminés, ce sera quelqu'un de beaucoup, beaucoup moins efficace contre Israël?
Ça sera sûrement quelqu'un de moins efficace. En tous les cas, il sera peut-être un bon stratège, comme l'était Nasrallah. Je rappelle que Nasrallah était aussi chef militaire. Et donc, peut-être un bon stratège, mais il n'aura pas le charisme, la stature. Nasrallah était perçu même comme une autorité religieuse. Ça fait le symbole. Tout cela disparaît avec Nasrallah. ne reste ensuite qu'un successeur qui est peut-être efficace, mais dont je ne donnerai d'ailleurs pas cher pour sa longévité. À mon avis, il sera très peu de temps en poste avant d'être éliminé.
Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi, pour toutes ces explications, ancien officier du renseignement militaire. Bonne journée à vous, à très vite.
Bonne journée.